talmudique.
En 1979, le galeriste new-yorkais Ronald Feldman commande à Andy Warhol 10 portraits juifs. 10 figures marquantes du judaïsme, censées résumer à elles seules le XXe siècle juif. Parmi les centaines de photos qui furent mises à sa disposition, Warhol se décide pour les visages de Sigmund Freud, Gertrude Stein, Franz Kafka, Golda Meir, Albert Einstein, Sarah Bernhardt, Louis Brandeis, George Gershwin, les Marx Brothers et Martin Buber. Parce qu'il l'avait choisi uniquement pour la beauté de son visage et qu'il n'avait jamais entendu parler de lui, Warhol note dans son journal de bord « Mais qui est donc ce Martin Buber ?» Oui, qui est donc ce Martin Buber qui rejoignait au rang d'icône Marilyn Monroe, Elvis Presley et la soupe Campbell? Une rockstar, un peintre impressionniste, un acteur shakespearien? Non, rien de tout cela. Buber est un humaniste, un écrivain humaniste qui consacra la majeure partie de sa vie à œuvrer pour le rapprochement entre les hommes. Buber est né le 8 février 1878 à Vienne et mort le 13 juin 1965 à Jérusalem.
Dominique Bourrel, bonjour.
Bonjour.
Dominique Bourrel, nous venons d'entendre le début du très beau film de Pierre-Henri Selfati consacré à Martin Buber, intitulé « Martin Buber, itinéraire d'un humaniste », film pour lequel vous avez été le conseiller historique et dans lequel vous jouez. Quoi de plus normal, puisque vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de la pensée de Martin Buber, l'occasion aussi de rappeler votre monumentale biographie que vous lui avez consacrée et intitulée « Martin Buber, sentinelle de l'humanité », paru chez Albin Michel en 2015. Martin Buber, toujours et encore dans l'actualité, puisque vient de paraître aux éditions de l'Éclat un petit livre qui porte le titre sobre et court de Communauté, traduit de l'allemand par Gaël Cheptou et dont vous avez fait la préface. Buber aimait les livres et l'enseignement. Ainsi, pour comprendre ce petit livre constitué de 6 textes s'étalant de 1901 à 1945, il faut peut-être, et je crois que c'est important, resituer Buber dans son travail éditorial et de professeur d'université, car cela dit aussi beaucoup de sa réflexion sur la question des relations humaines, de son rapport à la sociologie et au maître de la sociologie, allemande en particulier, qu'il a croisé tout au long de sa vie et de sa réflexion sur la notion de communauté. Commençons par le travail éditorial. Buber aimait les collections, il écrivait, dites-vous, là où le journal est discret, la série est indiscrète. Là où le journal se retient, la collection insiste, Dominique Bourrel.
Oui, c'est vrai que c'est un aspect de son œuvre qui est un tout petit peu moins connu. C'est cette collection qu'il a lancée quand il était très jeune, vers 1904-1905, qui s'appelle Die Gesellschaft, la société, et où en fait, il a fait travailler une quarantaine d'auteurs qui étaient parfois les gens les plus importants de son époque. Et en français, on en a quelques-uns, mais on ne sait pas que ça vient de là. Par exemple, sur la langue, le langage de Mautner, Lou Salomé dit érotique, la religion de Zimmel, et il y en a 3 ou 4 comme ça qui viennent de cette collection. Et effectivement, on voit comment il a voulu travailler, il travaillait avec les auteurs, il reprenait les textes, et c'est vrai qu'il a participé très tôt à la fondation de la Société allemande de sociologie, la sociologie qui en Allemagne comme en France cherchait sa place entre la psychologie et la philosophie, on a oublié tout ça, et qui était bien sûr contestée de tous les côtés. Il n'y a rien de tel que vouloir mettre une nouvelle discipline. Et alors, il était très au fait des travaux de cette société, il connaissait très bien les gens, dont par exemple le célèbre Tönnies, qui établit donc cette différence très connue maintenant aujourd'hui, qui est de Gesellschaft und Gemeinschaft, c'est-à-dire la société et la communauté. Mmh. Et qui était donc d'un côté ce qui est moderne, ce qui est mécanique, ce qu'il avait devant lui d'ailleurs, le Reich et la République de Weimar, et puis la communauté, dont il parle beaucoup, il tourne beaucoup autour de cela, et qu'il a essayé de promouvoir très tôt avec ses amis, dont naturellement le célèbre Landauer, dont vous avez déjà parlé, et ensuite dans certaines sociétés au moment de la République de Weimar, et quand il est parti en 38 en Palestine, ces fameux kibbutz dont il a été effectivement un des aspirateurs. Beaucoup de fondateurs de kibbutz étaient des élèves de Buber. Lui-même, vous l'avez rappelé la semaine dernière, avait une position un peu intermédiaire, puisque comme toujours, le kibbutz est un des exemples parfaits qui est du moment où la mystique se mue en politique. C'est-à-dire qu'au moment où, à la fin, ça marche sinon plus, du moins, moins bien. Et ça a été le cas des kibboutz, bien évidemment, qui aujourd'hui n'ont qu'une existence dans la propagande, quoi, et dans la manière dont Israël essaye de se vendre à l'étranger, alors que ces kibboutz eux-mêmes ont encore maintenant simplement une existence très fantomatique, à cause, vous l'avez bien dit, du libéralisme, du nouveau mode de capitalisme, etc.
Mais on y croit encore.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y en a quand même gardé non seulement l'idéal, non seulement une structure commune, non seulement, mais j'allais dire presque start-up, quoi, hein. Donc là, on est quand même assez loin des idéaux de la fondation de Kibboutz.
Alors, arrivé en Israël, c'est tout naturellement que cet immense philosophe de la relation, Kay Buber, son chef-d'œuvre Je et tu, paru en 1923 en témoigne, intègre l'université hébraïque de Jérusalem. Mais pour ce faire, ses amis lui créent une chaire sur mesure, dans le prolongement de ses recherches en anthropologie sociale, chaire qui va lui permettre de faire de lui le passeur de la sociologie de son temps et de poser les fondements de la sociologie israélienne, Dominique Bourrel.
Oui, c'est très intéressant cette affaire-là, parce qu'en réalité, comme on dit parfois de temps en temps, d'un mal peut sortir un bien. Buber avait, dès 1902, fondé dans sa tête, et avec un petit texte avec son ami Chaim Weizmann, l'idée d'une université hébraïque, d'abord d'une université juive et d'une université hébraïque, et quand ça a commencé à prendre forme, les catastrophes sont arrivés assez vite, c'est-à-dire que pour les religieux il n'était pas assez religieux, pour les philosophes il était trop religieux, et donc on ne savait pas où le mettre. Mais la moitié de ce nucléus de l'université hébraïque, c'était bien évidemment des élèves et des disciples de Buber, Bergman, Zimon, Scholem, etc. Et donc ils se sont dit, c'est pas possible qu'on le laisse sur le côté, d'abord ça va se voir, ça serait naturellement ingrat, et alors on lui a bricolé, comme vous dites, une espèce de chaire comme ça, parce que ce département de sociologie n'existait pas encore, et en réalité c'est son assistant, Eisenstadt, qui vient de mourir d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, qui a été le grand homme de la sociologie israélienne, qui a été son assistant, et donc, en fait, il faisait un peu ce qu'il voulait. Et comme il savait 10 langues, alors, forcément, il sortait les sources dans toutes les langues, et quand il a pris sa retraite en 51, il a voulu qu'on élise Léo Strauss. Et alors, il a écrit à Léo Strauss en disant, écoutez, il y a une chaire qui est libre, vous devriez vous présenter, on va vous la donner. Et Léo Strauss a dit, ah oui, mais c'est très embêtant, parce que la sociologie... Et Buber lui a dit, vous ferez comme moi, vous ferez ce que vous voudrez. Et en fait, c'est ce qu'il a fait, donc forcément... une fois c'était Max Weber, une fois c'était Zimmel, une fois il avait cette espèce de connaissance, un peu comme pour le racidisme d'ailleurs, tectonique de la sociologie, puisque c'était ses amis. Eppenheim était pas très loin d'où il a habité, de Heidelberg. Il a participé au cercle de Max Weber. Il avait des étudiants de Max Weber qui venaient chez lui à Francfort. Francfort a été aussi une des premières chaires de sociologie. Il a publié d'ailleurs Oppenheimer dans cette collection Die Gesellschaft, qui est le fondateur de la sociologie en Allemagne.
Et il avait publié aussi un livre important qui s'appelle Utopie et socialisme, dans lequel on retrouve toute l'histoire de ces utopistes, de ces anarchistes dont nous avons parlé la semaine dernière, dont Landauer par exemple.
Alors avec Landauer, il y a effectivement un sum philosophique, une symbiose intellectuelle tout à fait extraordinaire, parce que faut pas oublier que Landauer avait retraduit Maître Eckhart et la mystique allemande en l'allemand moderne, si je puis dire, était l'éditeur de Shakespeare et était une espèce d'intellectuel tout à fait extraordinaire. Et c'est ça qui a fasciné Buber, et en fait la fascination a été double. Du coup, quand il est parti faire sa révolution à Munich, Buber est arrivé là tout de suite. Landauer a dit « Kommen Sie doch, venez donc ». Buber est arrivé en disant « Je peux pas me défiler, je dois être là ». Il a passé on imagine les nuits avec les cigarettes, avec l'alcool, parce que Landauer a dit « Moi je veux bien faire le ministre de l'éducation nationale, mais vous allez aussi avoir un ministère ». Non, et il est parti le jour même, le matin même où Landauer a été assassiné, et c'est la raison pour laquelle vous l'avez signalé, il a été son légataire testamentaire, il a publié la correspondance, il s'est beaucoup occupé des papiers de Landauer, donc c'est extrêmement intéressant cette connexion comme ça. Ça a aussi un côté très berlinois, parce qu'en réalité ils étaient dans une même communauté un peu artistique, un peu philosophique, un peu mystique. Ces communautés vont irriguer une grande partie de la vie intellectuelle allemande, ce que en France c'est un peu moins connu, parce que là on voit bien que c'est le côté du protestantisme, de la vérité qui se partage, alors que du côté français, contrairement à ce que les gens pensent, il y a quand même une vieille mémoire catholique où là on fait son salut tout seul, quoi. En clair, on fait son salut tout seul, alors que dans le monde protestant et dans le monde juif, on fait son salut à plusieurs, normalement, bien évidemment.
Alors, vous venez de dire justement le mot communauté, c'est le mot qu'utilise Buber, c'est le mot en allemand, Gemeinschaft. Que signifie ce mot pour lui qui écrit « Notre communauté ne veut pas la révolution, elle est la révolution », phrase que l'on trouve dans le premier texte de ce recueil, « Ancienne et nouvelle communauté, alte und neue Gemeinschaft ». D'ailleurs, ça m'a fait penser à cette « alte neue Schule » de Prague, vieille et nouvelle, que représentent ces différentes formes de communauté, Dominique Bourrel ?
C'est-à-dire, c'est l'idée qui est fondamentale, qui est que la société, ça suffit pas. La société, ça fait marcher, ça fait le job, ça peut rendre des gens heureux, mais ça ne va pas permettre une émancipation réelle et un développement intellectuel, spirituel d'une personne. Et donc, cette communauté va, si je puis dire, transcender cette société. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça devient... Les critiques étaient, par exemple, du côté élitiste, en disant, écoutez, ça, c'est bien gentil, mais vous serez une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes. C'est un des reproches qu'on a fait aussi au kibboutz, hein, qui était l'idée de faire mieux que ce que faisait une société, mais sans être contre la société. C'est ça qui est très intéressant. Et là, il suivait d'ailleurs le texte de ce Tönnies de la sociologie allemande, en essayant de matiner aussi l'aristocratisme inhérent à cette espèce de sur-société, de super-société, avec justement le travail en commun, le rapport à la terre, la langue commune, et toute une série d'aspirations communes.
Alors, le terme de Gemeinschaft est important. Et est-ce que c'est un terme qui a été utilisé spécifiquement par Buber ou c'est un terme qui l'emprunte aux sociologues, vous venez d'évoquer certains? Pourquoi ce livre s'appelle « Communauté » comme si ce mot marquait spécifiquement, comme une sorte de logo, la pensée de Martin Buber?
Oui, je crois que c'est tout à fait ça. C'est justement pour se différencier de cette sociologie, j'allais dire presque sans foi ni loi, qui est pas gentil, bien évidemment, mais de cette sociologie mécanique. Et les premières contestations de la sociologie, ça a été ça, en disant c'est des statistiques, c'est de la mécanique, on retrouve pas, c'est la société du « on ». On trouve ça d'ailleurs aussi chez Heidegger, chez Sartre, ces pensées-là sont toujours un peu communes. Alors dans l'idée de communauté, vous avez effectivement probablement aussi l'idée de foi en quelque chose qui se profile à l'horizon. Et son premier modèle de la communauté, ça a été bien évidemment la communauté des chassidim. Ce qu'il a vu devant lui, qui avait aussi une espèce de connaissance comme ça arachnéenne, puisqu'il a été élevé à Lemberg, ce qu'on oublie toujours, qu'il allait avec son père à Tchernovitz, à Sadagora, et qui voyait ces gens vivre là, même s'il savait aussi qu'il y avait pas mal d'alcool, il y avait pas mal de danse, il y avait pas mal de ce que le judaïsme officiel condamnait. Mais il y avait là quelque chose qui se jouait.
On va y revenir pour faire le lien avec l'émission de la semaine dernière. Est-ce qu'on peut dire que dans ce Gemeinschaft, cette communauté, il y avait quelque chose plus proche de la pensée anarchiste que de la pensée...
Oui, je crois, vous avez tout à fait raison. Je pense d'ailleurs, en écoutant l'émission de la semaine dernière, je pense que même le sionisme est une sorte d'anarchisme. C'est-à-dire que justement, il y a une révolte d'ailleurs avec les gens qui avaient ce judaïsme de Légion d'honneur sur canapé, quoi. Les Bac plus 15, les prix Nobel, il suffit de lire après l'autobiographie de Scholem. Je veux dire, c'était une manière de dire, ben non seulement votre truc, ça va pas marcher, mais ça va être la catastrophe, et donc on va essayer. Vous avez parlé de Degania, mais ça a commencé avant, comme vous savez, en 1878, l'année d'ailleurs de la naissance de Buber, c'est Petah Tikva. C'est la naissance de la première ville hébraïque, juive, moderne, où il y a d'ailleurs des gens qui sortent de Jérusalem, qui viennent là, il y a des Hongrois, il y a des Roumains, et puis c'était tellement difficile, ça a été tellement une catastrophe qu'après, ils sont partis de Petah Tikva, on a fondé Rishon LeZion, c'est pour ça que ça s'appelle Rishon LeZion, et après on est revenu à Petah Tikva. Et donc là, ça c'est de la communauté, quoi. Et vraiment, les chiffres que vous avez donnés à l'époque sont vraiment parlent pour eux-mêmes, quoi. C'était vraiment un noyau d'un noyau, hein. C'était vraiment, j'allais dire, ce qui restait, une fois que les gens étaient partis de la Russie, arrivés aux États-Unis, morts dans tous les coins, puis là, il en restait quelques-uns qui, effectivement, ont essayé, ils faisaient tous les métiers, ils ont partagé les enfants, ils ont partagé d'autres choses, et ce qui a été aussi très vite, très critiqué, bien sûr. Donc ça, je pense que même dans ces mouvements-là, même le sionisme, cette idée-là, est une idée de révolte, quoi, contre, justement, le judaïsme officiel, des rabbins, etc.
Scholem est défini lui-même, ou se définissait lui-même, comme un penseur anarchiste.
Absolument, et les premières institutions d'ailleurs du sionisme ont été vivement attaquées, y compris par Buber et son groupe, très tôt dans les congrès sionistes. Et c'est là qui montre quelque chose d'assez curieux du génie d'ailleurs de Herzl, parce que Herzl avait compris ça. Puisque Herzl a proposé la revue, les travaux, les postes, si je puis dire, à tous ces jeunes, Weizmann, Buber, en disant, bon, sûrement c'est pas son truc, il y a sûrement des choses, mais cela, ça c'est les puissances vives du sionisme. Et alors, pour l'université hébraïque dont vous parliez tout à l'heure, ce qui est étonnant, c'est que c'est des gens qui font, ils prévoient une université, il n'y en a pas un qui a soutenu sa thèse. Donc, vous imaginez que les R professeurs doctors juifs qui étaient là ont dû se demander ce que c'était que ces guignols, quoi.
C'est une mitzvah d'être toujours joyeux, écrit Rabbi Nachman de Bratslav, à qui Buber consacra un de ses livres importants. La musique que nous entendons, intitulée « Le Nigoun du Baal Shem Tov », le fondateur du chassidisme, en donne une belle tonalité, ici chantée par la chorale des chassidim de Lubavitch de New York. Le chassidisme est très présent dans la pensée de Buber, et tout particulièrement dans cette question de la communauté. Je tiens à souligner que le mot « kibbutz » apparaît pour la première fois pour désigner une communauté dans les Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Bratslav. C'est la communauté des chassidim qui se réunissent autour de leur maître, autour de leur rabbi. Un rabbi qui un jour dit à ses disciples, je vais vous raconter une histoire, c'est l'histoire de Moïse qui arrive au ciel devant le trône du Saint béni soit-il. Dieu dit alors à Moïse, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. Moïse prit la parole et dit, maître du monde, j'aimerais voir les justes en leur récompense et les mécréants dans leur enfer. Dieu conduisit Moïse vers deux portes. Il ouvrit la première des portes et dit à Moïse de regarder à l'intérieur. Au milieu de la pièce, il y avait une immense table ronde. Au milieu de cette table, il y avait une grosse marmite contenant un ragoût à l'arôme délicieux. Moïse eut presque envie d'y goûter. Les hommes et les femmes assis autour de cette table étaient maigres, livides et malades. Ils avaient tous l'air affamés. Ils tenaient des cuillères aux très longs manches attachées à leurs bras. Tous pouvaient atteindre le plat de ragoût et se servir, mais comme le manche de la cuillère était plus long que leurs bras, ils ne pouvaient ramener les cuillères dans leur bouche. Moïse frissonna à la vue de leur misère et de leur souffrance. Dieu dit « Tu viens de voir l'enfer ». Dieu et Moïse se dirigèrent alors vers la seconde porte. Dieu l'ouvrit. La scène que vit Moïse était identique à la précédente. Il y avait la grande table ronde, il y avait la marmite de délicieux ragoût qui fit encore saliver Moïse. Les personnes autour de la table étaient également équipées des mêmes cuillères aux longs manches. Cette fois cependant, les hommes et les femmes étaient bien nourris, replets, souriants et se parlaient les uns aux autres en riant. Dieu referma la porte et dit à Moïse « Tu viens de voir le paradis ». Moïse dit à Dieu « Je ne comprends pas ». Dieu lui dit « Regarde mieux ». Il ouvrit la porte à nouveau. Moïse regarda et vit que chacun trempait sa cuillère dans le plat et l'attendait au voisin qui lui faisait face. Belle histoire, Dominique Bourrel, n'est-ce pas? Mais... une histoire qui pourrait figurer parmi les milliers d'autres histoires que Buber rapporta dans sa célèbre anthologie intitulée « Contes racidiques ». comment Buber transposa la pensée chassidique de la communauté dans sa pensée philosophique et sociologique de la relation et de la communauté, de cette communauté nouvelle dont vous nous avez parlé, Dominique Bourrel.
Oui, c'était justement une quasi-découverte pour lui, parce que d'un côté, donc, comme on l'a dit, il avait été scolarisé et socialisé à Lemberg, donc à Lviv, comme on dit aujourd'hui, et donc il en avait vu, bien évidemment, et il allait dans ses cours chassidiques, où il y avait d'ailleurs, parfois, je crois que c'était justement Sadogora, le Ritchie, qui était une spécialité curieuse de chassidisme avec un palais. On mangeait et les gens disaient « Mais comment ça se fait pour Dieu ?» Et l'autre « Rien n'est assez beau pour Dieu !» C'est quelque chose qui a beaucoup marqué les gens. Et donc pour lui, de voir ces gens vivre ensemble, de voir ces gens autour de leur tzaddik et de voir ces gens évoluer comme ça, ça a été quelque chose de décisif. Mais tout de suite, il s'est aperçu qu'il y avait, comme dans tout, des problèmes négatifs, des problèmes positifs, que cette personnalité d'ailleurs du tzaddik, on l'a souvent comparé à un tzaddik. Il a dit, moi, c'est pas du tout ce que je veux faire. Je veux essayer de vous faire comprendre ces textes qui, à l'époque, n'étaient pas publiés, étaient dans un état épouvantable. On sait que Gershom Scholem et d'autres, plusieurs fois, ont critiqué la manière dont il a interprété. Et il a dit, mais moi, c'est pas mon affaire. Je fais pas, là, une édition critique. Je fais pas l'historien de ces mouvements-là. Je les utilise, je les transfigure. Et là, il a été beaucoup aidé par sa femme, ce qu'on oublie toujours, Paola Buber, qui, elle, avait fait aussi, était en train de faire une carrière sous pseudonyme de romancière allemande. Et qui a donné à ces contes hassidiques cet aspect justement non seulement charmant mais tout à fait extraordinaire qu'ils ont eu. Et encore aujourd'hui, on peut faire l'expérience quand on rentre dans les foyers israéliens et que vous expliquez que vous vous intéressez à ça, il y a toujours un volume des contes hassidiques. Le jeu et le tu, la traduction de la Bible, il faut savoir l'allemand. Le problème avec les Arabes, ça embête tout le monde. Alors que ces contes hassidiques, ils sont encore là, quoi. Comme s'il y avait cette espèce de rappel, encore une fois, d'expliquer que le judaïsme, c'était pas seulement des bac plus 15 et des grands professeurs, mais aussi ce mouvement qui, comme une lave, était là et travaillait ce monde juif.
Alors si dans ces textes de Buber, il cite le Baal Shem Tov et le chassidisme, c'est avec délectation qu'il construit un pont entre les cultures dans un texte de ce livre, Communauté, qui jongle entre les pensées d'Héraclite, d'Aldous Huxley, de Lao Tzu, des Upanishads, d'Hölderlin et d'Heidegger. Peut-on dire, selon vous, que la notion de communauté chez Buber, c'est aussi le dialogue entre les cultures, entre l'Orient et l'Occident, entre le passé et le présent, communauté au sens de mettre les réflexion en commun pour les confronter et en apprécier à la fois les différences et les proximités, Dominique Bourrel.
Oui, vous avez tout à fait raison de signaler ce côté de pont entre Orient et Occident, parce que vous avez mentionné la semaine dernière cette déclaration Balfour, mais alors, il ne voulait bien évidemment pas que ce sionisme et cette redécouverte d'Israël arrivent dans les bagages d'une armée, quelle qu'elle soit. Ça aurait pu être l'Allemagne, ça aurait pu être les Anglais, etc. Il voulait bien montrer que les Juifs devaient être un pont entre l'Orient et l'Occident. Et dans cette idée de communauté, il pensait que c'était tout à fait exceptionnel, et c'est dans un de ces textes-là, parce que c'est un peuple en vertu d'une révélation, et une révélation portée par un peuple. C'est toute la différence. C'est pour ça qu'après, quand on est arrivé simplement à ces problèmes politiques, alors on a commencé à dire, il faut qu'on soit la majorité. Ah, les problèmes ont commencé. Si vous êtes la majorité, ça veut dire qu'il y aura une minorité. On oublie toujours que quand il est arrivé en Palestine, c'était à une proportion de 1 sur 10. Parce qu'il y avait une majorité de juifs à Jérusalem, mais pas du tout dans le reste du pays. Et donc, il faut aussi comprendre les gens qui sont arrivés en disant, attendez, vous voulez un État pour deux peuples, vous avez un État binational, etc. Tout ça, c'est très bien joli, mais vous n'êtes pas là. Enfin, je le dis comme ça un peu. C'était ça, le problème. Et effectivement, son idée, c'était de faire une communauté entre ces peuples qui habitaient ensemble. C'était là une manière pour lui de transcender ses clivages politiques. Et vous avez parlé aussi la semaine dernière d'une espèce de socialisme sans État. Je crois que ça, c'est le grand... Alors, c'est de l'utopie, probablement. C'est ça, cette idée. Socialisme sans État.
Alors, vous venez d'anticiper un petit peu sur ma question, qui est presque naturelle quand on parle de Buber. Il a écrit un livre qui s'appelle « Une terre de peuple ». Cette communauté de rencontres ne vise-t-elle pas à une communauté universelle, premièrement, mais pas seulement dans le sens des idées, mais aussi en actes. Et j'aime cette phrase d'Héraclite qu'il cite et que vous reprenez dans votre préface « Nous sommes le dialogue ». Un aphorisme pour aujourd'hui, mais en quel sens? Je pense aussi à une question très importante qui occupe à Buber, vous venez d'en parler, qui l'occupe à toute sa vie, le dialogue entre Israéliens et Arabes. L'œuvre de Buber n'est-elle pas l'une des clés d'un futur où, communauté pourrait s'entendre au sens d'une vie commune, apaisée entre Israéliens et Arabes, vivant sur ce même sol, qui est sans doute très fatigué de cette guerre sans fin.
C'est ce qu'on veut espérer, effectivement, mais vous avez raison, cette idée de dépassement de la politique par, justement, ce socialisme de ces États, cette idée d'une autre type de communauté qui est un peu, effectivement, difficile à mettre en pratique. Et vous avez cité Héraclite, c'est contre-assidique, c'est un peu comme des pensées des présocratiques, c'est-à-dire pour comprendre le premier sens, c'est pas très difficile, puisque vous avez un squelette d'une histoire qui est la plupart du temps quelque chose qu'on pourrait retrouver ailleurs, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont Buber l'a fait marcher. Alors maintenant, quant à cette utopie de penser que cette communauté allait pouvoir ou va pouvoir rassembler, vous avez aussi dit ou un de vos interlocuteurs la semaine dernière en disant que pour l'instant c'était la guerre. Alors quand c'est la guerre, les communautés c'est quand même toujours difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde la télévision tous les soirs en Israël, on se dit ben c'est dommage qu'il ait pas été plus écouté, quand on sait qu'aujourd'hui il y a à peine 5% des Israéliens qui peuvent lire l'arabe, alors qu'il voulait lui-même installer dans tous les villages une bibliothèque, des enseignements d'arabe, etc. Il y a encore du boulot.
Dans tous les villages israéliens.
Oui, absolument.
Oui. Vous avez parlé au début de l'émission d'un homme qui parlait 10 langues. Est-ce que justement la question de la traduction, la question de la langue, n'est pas une clé de ce conflit ? Est-ce que si tous les Israéliens parlaient l'arabe et tous les Arabes parlaient l'hébreu, est-ce qu'on n'aurait pas déjà cette mise en acte de cet aphorisme très fort que on pourrait mettre en fronton sur nos maisons, nous sommes le dialogue, ne pas penser à entrer en dialogue mais dire je suis le dialogue. Mais pour être en dialogue, il faut déjà avoir une langue commune, peut-être que la communauté, le Gemeinschaft dont on parle, commence aussi par la langue et peut-être que vous devriez et on devrait ensemble proposer, j'ai déjà dit cette idée à ce micro, proposer au ministère de l'éducation nationale en Israël de faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul Israélien qui ne parle l'arabe et qui ne lise l'arabe.
Vous avez tout à fait raison, c'est d'ailleurs ce que voulait faire Ben-Gourion. L'idée c'était que l'éducation, par exemple, devait être immédiate dans les deux langues. C'est d'ailleurs une très belle image, on est déjà dans le dialogue. En fait, une langue, ça n'existe pas. Il en faut toujours une deuxième. Et d'ailleurs, c'est l'histoire des Juifs, tout le monde le savait bien. C'est le Yiddish, le Ladino, etc. Il y a toujours un fond, un substrat et deux langues. Et de fait, c'est vrai que si on fait de la sociologie de la connaissance, un traducteur sur deux est juif. Alors il l'a oublié, il veut pas le dire, les gens le savent pas, les gens veulent pas le parler des choses qui fâchent, mais c'est quelque chose qu'il y a quand même dans cette histoire-là.
Alors ce livre Communauté, composé de 6 textes, je l'ai dit, se termine par cet article qu'on a déjà évoqué la semaine dernière et dont vous avez aussi esquissé quelques mots, une expérience qui n'a pas rencontré l'échec, 1945, une réflexion sur le kibbutz, qui est d'ailleurs intéressante parce qu'il y a aussi un autre article très court qui est une préface sur un livre concernant la maison. Et le rapport entre philosophie et architecture. On a l'impression que chez Buber, la question de très concrète, non seulement du dialogue, mais de l'espace habité et habitable, et ce qui boute, c'est quelque chose qui le préoccupe beaucoup, Dominique Bourrel.
Oui, vous avez raison. Là, c'est un exemple parfait du fait que quand on veut réaliser, alors vraiment dans le sens obvious du terme de réaliser, les problèmes commencent. Par exemple, il était absolument outré de cette histoire des enfants qui sont pas avec leurs parents, avec les maisons communes, etc. Là, il se demandait vers où ça aller.
Alors, rappelez l'épisode, ça se passe au kibbutz. Donc.
Voilà. Et donc, il y avait des maisons communes pour les enfants et on enlevait les enfants. On n'enlevait pas. Les enfants étaient ensemble avec des nounous ou tout ce qu'on veut. Et puis, tout le monde bossait. Et donc, les gens travaillaient ailleurs. Et il y avait, je ne sais plus exactement, 1 heure par jour ou 2 heures par jour pour s'occuper des enfants, etc., etc. Donc, tout ça, ça partait bien évidemment d'un bon principe. Fallait faire une terre, fallait construire un pays. On n'était pas là. Mais d'un autre côté, c'était complètement aberrant. Et je dois reconnaître que j'ai enseigné plusieurs années, comme vous savez, comme vous, dans les universités israéliennes. Et quand j'ai fait un cours sur Buber et sur les kibbutz, il y en a une très gentille qui m'a raconté ça, qui était déjà une femme d'un certain âge, et qui a dit, moi j'ai eu besoin de 5 ans ou de 10 ans d'analyse pour me sortir de cette idée-là. Hein, donc ça a fait aussi de la casse, dont on parle pas, mais forcément, pour des raisons évidentes d'ailleurs, il n'y a pas...
Un roman est paru d'ailleurs, ou un livre est paru sur cette question.
Et il a été traduit en français, et c'est d'ailleurs extrêmement mélancolique, cette lecture-là. Parce que, oui, c'était, ils étaient promis pour le bonheur, ou quelque chose choses comme ça. C'est un très beau roman, c'est un très beau texte.
Et qui montre justement le fait que dans le kibboutz, les enfants étaient retirés à leurs parents, était quelque chose en fait de très traumatique, que Bettelheim n'a pas compris, puisque Bettelheim, dans son livre
Les enfants du rêve,
s'extasie devant les enfants du kibboutz, en pensant que le kibboutz, on a parlé la semaine dernière du premier kibboutz comme la mère de tous les kibboutz, comme si le kibboutz, comme si la kvoutza, comme si la communauté pouvait remplacer les parents. Et on s'aperçoit aussi aujourd'hui que la notion grégaire de communauté n'efface pas la famille, ni les liens très particuliers qui existent entre les enfants et les parents, qui sont des liens privilégiés. Donc Buber s'oppose à cette question de l'enfant pris à ses parents, mais est-ce que c'est la seule raison du non-échec? Et la semaine dernière, Michel Valency parlait des fêtes du kibboutz. Est-ce que vous êtes aussi lucide ou bien nostalgique d'un espoir porteur de ce kibboutz et de la pensée de Buber qui nous occupe aujourd'hui? Quel espoir pour la pensée de Buber?
Ah là, ça c'est beaucoup Dominique plus Bourel. Simple. Ça c'est beaucoup plus simple à évoquer plutôt qu'un espoir pour les hypothétiques kibboutzim, comme vous avez dit, pour des raisons libéralisme, sociologique, etc. C'est dans la vie, faut aussi passer, faut aussi grandir, hein, faut aussi tourner les pages. D'autant plus que vous l'avez signalé la semaine dernière, ça a été au centre de critiques épouvantables. Begin disait, c'est des gens qui ont des piscines. C'était tout à fait incroyable, cette espèce de haine que les gens véhiculaient comme ça. Et de fait, d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant il y a des moshavim, des moshavs, ou moshavot, je sais plus si on dit féminin ou masculin, mais où on a essayé d'améliorer ces questions-là. Mais maintenant, avec les économies modernes, les économies libérales, je crois que c'est pas la peine de s'étendre là-dessus. Sur la pensée de Buber, notamment l'intelligence avec les Arabes, le travail commun, etc., mais il n'y a pas d'autre issue possible. Sinon, c'est une impasse. Sinon, c'est la guerre absolument permanente. Alors on peut mettre des murs de tous les côtés, on peut ajouter des checkpoints, c'est pas comme ça qu'on arrivera à résoudre. Tout le monde le sait d'ailleurs, une grande partie des Israéliens et des Arabes en sont convaincus. Donc là c'est toujours le problème du débat entre la vie de tous les jours et les gens qui se parlent quand même tout le temps. Il y a une sorte, faut pas le dire aux gens qui voudraient pas ça, mais il y a une sorte d'état binational. Vous rentrez dans les hôpitaux israéliens, vous avez des chirurgiens qui sont arabes, vous avez des infirmières qui sont arabes, mais pour l'instant on a encore cette superstructure politique qui est... fortement préoccupante, quoi, pour le dire de manière élégante et gentille.
Alors on a parlé de traduction, on parle d'une terre de peuple, d'une terre de langue. Est-ce que Buber est traduit en arabe?
Oui, bien sûr, il est traduit en arabe. Déjà, à l'époque, les Égyptiens avaient traduit « Je vais tu ». Et maintenant, il y a en permanence toute une série de textes. Il y a eu le projet Aladdin, qui traduit aussi des textes de Buber en arabe. Et après, le problème, c'est qu'il faudrait savoir qui les lit, comment, pourquoi, etc. Mais ça, on sème comme ça des graines, et puis on va y arriver. En tout cas, encore une fois, ils n'ont pas le choix.
Merci Dominique Bourel pour cet enthousiasme communicatif et cette pensée dansante qui nous fait découvrir Buber encore sous un autre jour, toujours aussi lumineux. Je rappelle le titre du livre dont nous avons parlé aujourd'hui, Communauté, paru aux éditions de l'Éclat, un régal pour les yeux, les mains et l'esprit. N'oublions pas de tendre la cuillère à notre voisin. Vous avez oublié de commenter la parabole. Merci encore Dominique Bourel, c'était Talmudique, une émission de Marc Alain Wacknin et Françoise Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Bernard Laniel, à la réalisation Pierre Villers. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de l'émission. Coltouv, l'œil traote, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.